et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir enfin parler de yoga. Depuis le temps que j'en avais envie, j'ai enfin trouvé la femme avec qui en parler. Bienvenue Carole, tu es professeure de yoga.
Oui.
Et on se connaît, on s'est connus comment ? Par Instagram, je crois.
On s'est connus par Instagram à l'origine.
Je t'avais découvert par ton blog, Maman Yogi, puis Maman Prof de Yoga. Et puis je suis venue à ta retraite de yoga l'année dernière.
Oui.
Qui était avec Faustine et Mélanie.
Exactement, les deux autres Happy Yogis.
Voilà, vous avez monté votre petit trio Happy Yogi Society. Oui. Et vous organisez une seconde retraite au mois de mai.
Oui, tout à fait.
Je ne ferai peut-être pas partie, mais c'était génial.
Tu nous manqueras.
Je sais. Donc on a décidé de faire cet épisode sur le yoga, sur la pratique du yoga, pourquoi tu es devenue prof, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que ça a changé, etc. etc. Donc déjà, qui es-tu ?
Alors, je m'appelle Carole, j'ai 34 ans, je suis comme tu l'as dit, yogi, maman, ça résume à peu près tout ça, je suis aussi végane, j'adore aussi tricoter, j'adore faire des colliers en perles, je vis en couple avec le père de ma fille.
Tu as 34 ans, tu as découvert le yoga À quel moment ?
J'ai découvert le yoga en 2009, donc j'avais, vu qu'on est en 2019, 24 ans.
Ok.
J'ai découvert le yoga à l'époque, j'avais une maladie de Hodgkin, donc une forme de lymphome, un cancer. Au bout de 3-4 mois de chimio, la maladie reculait, mais j'étais fatiguée, je dormais mal, tout le système nerveux commençait à être un peu atteint, etc. Bon, j'étais pas au top, quoi. Voilà, c'était un peu dur pour moi. J'étais pas particulièrement sportive à l'époque, donc le sport ne me manquait pas, on va pas se mentir.
Ouais.
Mais en fait, du coup, faire des choses avec mon corps m'a manqué. Et je ne sais plus, franchement, si j'ai lu ça dans un magazine, si un médecin me l'a dit, si une masseuse me l'a dit. Quelqu'un m'a dit, va faire du yoga. À l'époque, 2009, il n'y avait pas des studios de yoga à tous les coins de rue, c'était pas du tout une mode, j'étais pas sur Instagram. Donc j'ai tapé yoga sur les pages jaunes. J'ai trouvé un centre qui s'appelait le temps du yoga et de la relaxation, rue Daguerre, un centre de hatha yoga, pas du tout comme les studios de yoga qu'on connaît maintenant, un petit centre où tu prenais ton abonnement, un cours par semaine, tu payais ton trimestre, etc. Un truc un peu tradique.
C'est comme ça que j'ai commencé aussi.
Exactement.
Avec un petit vieux, et c'était 100€ l'année pour un cours par semaine.
Ouais, c'est pas cher.
C'était à Toulouse et c'était en 2012.
D'accord.
J'avais 18 ans. On faisait le poisson, après on faisait le chameau.
Ah oui, bah oui, c'est ça. Il n'y a pas ce flow qu'on pratique plus toutes les deux maintenant. Mais,
Il avait 70 ans, quoi.
Mais moi, en fait, j'étais entourée de personnes de 70 ans, mais comme j'étais en chimio, c'est moi qui galérais le plus. En fait, parfois, je m'endormais dans les postures, ou je pouvais dormir jusqu'à 19h par jour. Donc, oui. Du coup, tu me mettais sur le tapis, je dormais.
et du coup, tu as rencontré le yoga comme ça, à 24 ans, par le hatha yoga. Et tu as fait ça pendant combien de temps ?
J'ai continué le hatha yoga à raison d'une fois par semaine. Parfois deux, la prof qui s'appelait Christine m'avait dit « Non mais t'as payé ton abonnement une fois par semaine, mais si t'as besoin de venir plus, viens, t'es la bienvenue, elle était adorable, elle s'occupait de moi comme une petite maman, elle était vraiment trop mignonne. » Donc j'allais une ou deux fois par semaine, quand j'étais pas trop fatiguée, quand j'arrivais à faire les 200 mètres à pied qui me séparaient de la rue Daguerre. Je trouvais ça un petit peu chiant, honnêtement. J'ai jamais accroché avec le hatha yoga, même maintenant j'en fais plus. Mais sans avoir de coup de cœur pour la pratique, il y avait un bien-être.
Tu savais que je revenais. Ça faisait du bien.
Ouais, ça me faisait du bien.
Tu disais au pire.
Je savais que ça me faisait du bien. Tu vois. Ouais. J'y revenais parce que ça me faisait du bien, même si c'était pas quelque chose qui m'excitait, qui me donnait envie. J'avais pas de côté addict à ça. Et puis quand j'ai commencé à aller mieux, donc disons 6 mois après la fin des traitements, vers début 2010, j'ai commencé à retourner vers des pratiques dynamiques ou plutôt à y aller. J'avais envie de faire du sport pour la première fois de ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la gym suédoise. Et donc des pratiques très dynamiques, rien à voir avec le yoga.
D'accord, t'as commencé du coup le sport par la gym suédoise.
Ouais. À partir de mes 18-20 ans, franchement, je fumais des cigarettes, je mangeais des McDo, je buvais des bières. J'étais une jeune femme de base. pas du tout saine, je m'intéressais pas du tout à tout ça.
Et du coup, tu t'es mise à la gym suédoise.
Je me suis mise à la gym suédoise et j'ai continué mon petit cours de hatha yoga une fois par semaine. Je me suis mise à méditer un petit peu, etc. Mais à nouveau, j'avais pas de support, de réseaux sociaux, j'avais juste le bouquin de Christophe André sur la méditation.
La Bible des postures.
C'est ça. Ça a duré comme ça, je pense, jusqu'à 2011 à peu près, donc encore un an ou deux. Et j'ai découvert le Strala Yoga et là, Ashtanga Yoga à peu près au même moment. Un peu par hasard, cette fois-ci je commençais à être sur les réseaux sociaux et je pense que quelqu'un sur Twitter m'a dit « Mais toi qui aimes bien le yoga et la gym suédoise, donc qui aime les choses dynamiques, essaye de faire de l'ashtanga ou du strala. » Mais je savais même pas que des yogas dynamiques existaient. Et là, gros coup de cœur. Et là, je suis passée d'une pratique hebdomadaire à tous les matins, à mon petit cours de yoga, etc.
Toute seule ?
Ouais, toute seule, j'ai pris des vidéos. Bah, Strala, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de Strala à Paris.
C'est
Tara Stiles, la fondatrice, ouais. Et à cette époque-là, il n'y avait que Tara Stiles et 2-3 profs qu'elle avait formés, mais à New York seulement. Je suis allée à des cours d'ashtanga en studio, mais l'ashtanga, la particularité, c'est que c'est une série qui s'apprend. Donc j'ai assez vite appris ma série et je la faisais toute seule le matin, etc. Et je suis vraiment devenue accro comme ça. Et puis je suis tombée enceinte. En 2013, du coup.
D'accord.
J'avais un an et demi d'ashtanga.
Et là, tu travaillais
Strala
toujours
derrière moi. Et là, j'étais juriste. De 9h à 18h, 19h, 20h, 21h, selon les jours.
Avec du yoga en plus.
Avec du yoga en plus. Et puis, je donnais des cours de gym suédoise.
Entre-temps, tu t'étais
quand même...
Et alors, pourquoi tu t'étais formée à la gym suédoise ?
Alors, la gym suédoise, c'est pas du tout quelque chose de professionnel. À l'époque, en tout cas. Maintenant, c'est une fédération. Les profs ont des diplômes et sont payés. À l'époque, on était bénévoles. Et donc, ce qu'ils te disaient, c'est si t'as une pratique régulière de gym suédoise et que tu as envie de devenir animateur, bah, c'est quelque chose de sympa à faire. Quand tu donnes un cours de gym suédoise,
tu fais ton cours de gym suédoise.
Donc je continuais de faire mon sport de cette manière, mais en le partageant avec d'autres et en créant mes propres séquences et mes playlists. Et donc j'aimais bien. Je donnais mes 2 à 4 cours par semaine et j'avais mon rythme comme ça. Et puis je suis tombée enceinte. Donc assez vite, la gym suédoise, plus possible. Ça reste possible hein, de pratiquer enceinte, mais moi j'étais hyper vite fatiguée, j'avais des céphalées de tension, donc mal à la tête. Donc après un mal de tête qui a duré littéralement 72 heures. Je me suis dit, je vais plus faire d'efforts cardio, ça ne marche pas pour moi. Mm. Je faisais aussi du vinyasa à ce moment-là, j'avais un peu lâché le strala pour me tourner vers le vinyasa, mais c'était difficile à adapter. Donc pendant ce moment-là, très vite, j'ai fait du prénatal.
Oui, c'est beaucoup plus doux.
On te dit quoi faire, tu prépares avec ton corps et ton mental à l'arrivée d'un bébé, etc. Et puis j'ai repris ma pratique de vinyasa après mon accouchement, assez vite. Je pense que ma fille avait 3 mois quand j'ai repris.
Et t'as repris les cours de gym suédoise ?
Et j'ai repris des cours de gym suédoise. Et puis là, je suis entrée dans ce que certains parents, certains de mes collègues parents appelaient le tunnel. Le tunnel, c'est cette sensation, je pense, quand tu as un travail de bureau et que tu essaies vaguement de maintenir trois loisirs dans ta vie, que tu ne peux jamais t'arrêter. Tu te lèves, tu t'occupes de ton enfant, tu déposes ton enfant, tu vas au travail, tu travailles jusqu'à 18h, tu repars en courant, t'arrives pile poil à la sortie de l'école, tu vas faire les courses, tu rentres. Tu fais à manger, tu fais le bain, tu couches l'enfant, tu ranges ton appart, il est 21h, t'es rincé, tu manges, tu dis « Ah, je vais faire une demi-heure de yoga », t'essayes vaguement, tu te couches, tu t'effondres et tu recommences. Et sans break, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus la charge mentale féminine, voilà. Évidemment. J'avais l'impression d'être plus dans un tunnel que mon conjoint, même si lui aussi était fatigué, etc. On a des débats là-dessus, il fait sa part. Parfois, je lui dis que sa part est plus petite que la mienne. Mais en termes de charge mentale, ouais, on est bien dedans.
En tout cas, du coup, tu t'es retrouvée dans le tunnel.
Du coup, j'étais dans le tunnel, et ce qui m'a sorti du tunnel, c'est en plein milieu du mois de janvier, bien tunnel, et avec une de mes meilleures amies qui avait accouché exactement au même moment, à 2 semaines d'écart, on est tombé sur une retraite de yoga d'une prof que je suivais sur YouTube, une prof américaine. C'était une retraite de 5 jours à Marrakech au mois de mai. Son site s'appelle Yoga with Candace.
Moi, je regardais mes vidéos sur YouTube parce que j'avais pas à un moment donné les moyens de me payer des cours de vinyasa.
Bah oui, et puis il y avait pas trop de
plateformes encore. J'en avais marre du vieux là de Hatha et du coup, j'allais sur internet et il y avait plein de vidéos, mais c'était des américaines. Bon, exactement. C'est comme ça que j'ai découvert le vinyasa.
Ouais,
et après, je me suis inscrite à certains ateliers ou aux cours de donation chez Karine Castet. À
oui.
Toulouse, gros coup de cœur. Et je suis partie en retraite avec elle aussi.
Génial.
Et c'est là, enfin après, ouais. J'ai jamais arrêté et je suis montée à Paris, j'ai continué en testant un peu les studios parce que dans chaque studio, tu peux faire des cours d'essai.
Ben oui, bien sûr. Et des semaines d'essai, voilà. Des choses comme ça. Ouais.
Du coup, je suis assez difficile sur les profs. Enfin, ouais, genre, tu sais, il y a des profs où ça accroche direct et il y en a d'autres, c'est non. Et encore plus par vidéo.
Il y a la voix, la manière dont on te guide.
Sur Yoga Connect, il y a des très très bons cours avec moi Tatiana.
Ouais.
Donc du coup, tu as commencé comme ça.
C'est comme ça que j'ai fait un tournant où j'ai décidé de m'inscrire à cette retraite-là. J'y suis allée avec mon amie à l'époque. Et en rentrant, j'ai réalisé à quel point ça m'avait fait du bien de me reconnecter à moi. Ma fille avait 10 mois, 11 mois. Et j'ai eu envie de continuer cette intensité-là. Du coup, c'était plus le format retraite de yoga qui se présentait, mais le format formation prof de yoga. J'ai cherché, alors à Paris, pareil, à l'époque, il y avait 4 pauvres formations. Même pas. Il y avait Gérard Arnault. Il y avait une formation qui s'appelait les Halles du Yoga, je crois. C'est une formation en 3 ou 5 ans d'Ashtanga. Grosso modo, c'était à peu près tout.
Et sinon, le truc 200 heures en Thaïlande.
Exactement, mais moi j'avais un enfant d'un an, donc c'était pas du tout une option de partir un mois au bout du monde. Donc du coup, je voulais être à Paris et faire quelque chose un week-end par mois ou ce genre de choses. Et la seule formation que j'ai trouvée en vinyasa, et celle que j'ai choisie et qui existe toujours et que je trouve fantastique, je l'ai prise un peu par hasard, mais je suis hyper contente de l'avoir prise, qui s'appelle EFV, Expansion Freedom Voice, en me disant que j'allais ajouter à mes cours hebdomadaires de gym suédoise un petit cours de yoga par-ci par-là. J'allais juste donner un cours en plus parce que j'ai envie de partager ça aussi, mais c'était surtout pour moi.
Tout en continuant à être juriste.
Tout en continuant à être juriste et aller chercher ma fille à 18h30 tous les jours.
Et en faisant à manger et les courses.
Donc là, j'ai un peu creusé plus le tunnel en fait.
Et tes cours avaient lieu le soir ?
Non, alors en fait, c'était les week-ends.
D'accord.
Donc c'est mon conjoint qui a accepté d'être complètement en charge de sa fille un week-end par mois, c'est-à-dire du samedi matin au dimanche soir.
Okay.
Je ne suis là pour personne. Après, moi, j'avais d'un mois sur l'autre l'obligation de pratiquer au moins en studio 2 fois par semaine. Donc j'essayais de caler ça à 7h30 du matin ou sur ma pause déjeuner. Et j'avais aussi la nécessité de retrouver un petit groupe. On était répartis en petits groupes d'élèves, qu'on appelait les small groups. Une fois par semaine, on travaillait ensemble. Et dans mon small group, il y avait Faustine, Mélanie. Et Faustine, Mélanie et moi, ça a été
le coup de cœur.
Le coup de cœur, le coup de foudre.
Super copine.
Exactement. Et donc, gros coup de cœur amical, gros changement de vie. L'année était intense, puis je suis sortie de là diplômée de yoga. Sans jamais me dire que j'allais quitter mon job. J'avais 2 bacs plus 5, 10 ans d'expérience, en poste de catégorie A dans la fonction publique. C'était débile de démissionner. Et pourtant, en 2017, j'ai démissionné.
Wow. Et t'as décidé ça, ça a dû quand même cogiter un peu avant que ça se passe.
Ça s'est fait presque tout seul, mais évidemment, il y a un moment où pour franchir le cap, tu cogites, tu doutes. J'ai passé des mois à cogiter, à douter, à pas oser. Ça s'est fait assez tout seul parce que mon cours hebdomadaire de yoga que je comptais donner s'est vite transformé en 3-4 cours. Et à un moment, quelque chose, une dynamique s'est inversée dans ma vie. L'impression que je donnais du yoga en plus est devenue l'impression que le temps que je passais au bureau m'empêchait d'aller travailler et faire des choses utiles et donner des cours de yoga.
Qu'est-ce que tu ressentais comme plaisir à donner des cours, en fait?
La raison pour laquelle ça me semblait être un travail, vraiment, parce qu'il y a donner des cours pour le plaisir, et pourquoi tu voudrais que ce soit ton travail plutôt que ce que tu fais actuellement? Le plaisir que t'en tires, c'est vraiment, je trouve, celui du partage, de l'énergie que tu partages, le plaisir de sentir que tu aides les gens. ça me donnait l'impression d'avoir une profession qui avait du sens.
Qui était utile.
Qui était utile. C'est des petites choses, hein, c'est pas juste, c'est pas forcément t'as changé ma vie, c'est pas une question de gratification.
Ouais.
C'est vraiment juste se dire, cette personne-là vient me voir à la fin du cours, elle me dit, bah, tu vois, ça fait 10 ans que je vais chez l'ostéo au moins une fois par mois, j'ai tout le temps mal au dos et tout. Ça fait 6 mois que je fais du yoga une fois par semaine et je vais plus chez l'ostéo. J'ai plus mal au dos, je vais mieux, etc. Alors que mon travail de bureau commençait à me sembler absurde. J'avais l'impression de pas pouvoir faire ci ou ça dans ma vie. Parce que non, j'avais une réunion dont je savais qu'elle était absurde et à mon sens inutile.
C'était un moyen d'avoir la main sur ton emploi du temps, sur ce que tu fais, et de savoir que c'est utile derrière et que ça fait du bien, et que ça te faisait du bien aussi finalement de voir des gens aller bien après. Donc.
C'est ça.
Et toi en plus, ça te permettait de garder aussi cette pratique intensive, entre guillemets, régulière.
Oui. Alors en termes de pratique, pendant que tu donnes des cours, il y en a assez peu, je trouve. Parfois, il y a quelques démonstrations, je fais un peu de salutations au soleil avec les personnes au début, surtout quand il y a beaucoup de débutants dans le cours. Mais certains cours, surtout quand c'est des gens habitués, je montre rien. Je donne énormément de cours de yin yoga. Où pour le coup il y a à peine besoin de démo, je montre une posture, c'est-à-dire je me mets dans une forme puis deux après, secondes, et puis après je m'occupe des gens, je vais les ajuster, les accompagner, etc. Mais je ne fais rien. Ça ne me permet pas beaucoup de pratiquer plus. En termes de temps, pour moi, je travaille autant qu'avant, mais juste à des horaires différents et répartis différemment. Je travaille 6 jours par semaine au lieu de 5. Je travaille parfois très tard le soir ou très tôt le matin, mais j'ai des trous différents. Je suis plus souvent à 16h30 à la sortie de l'école. Tu vois, là, il est 15h30, j'ai pas cours. J'ai eu cours toute la matinée. Je commence à 7h30 demain et je finis à 20h demain. Donc c'est différent. C'est
t'as des temps différents, t'as une organisation différente. Ton niveau de vie, parce que c'est ça aussi qui devait être la question, c'est tu es en couple, donc t'avais la sécurité financière de ton compagnon.
Ouais.
On a cette image très brillante du yoga, du monde du yoga. Les jolies filles en super souple avec un super legging, machin, qui gagnent de l'argent, qui font des cours à droite, à gauche, qui sont trop bien foutues. Mais la réalité... elle est peut-être pas là. La réalité, c'est que ben, le coût de la vie, il est quand même là, et qu'un studio où tu payes peut-être ton cours 20 euros, ben, le prof, au final, il n'est pas payé pareil. Enfin...
Non, il n'est pas payé 300 euros pour donner un cours.
Voilà.
La première chose, c'est est-ce que c'est différent si on est célibataire et en couple ? Oui, mais pas forcément toujours dans le même sens. Selon ce que tu as appris, la sécurité de l'emploi n'est pas quelque chose qui compte pour toi. C'est vrai que pour moi, c'était quelque chose avec quoi j'avais toujours vécu. C'était vraiment passer dans un autre domaine de quitter ça. Mais il y avait la sécurité de l'emploi de mon conjoint qui lui porte aussi un nouveau poids qui est je peux pas perdre mon job. Même si je gagne bien ma vie maintenant. Je gagne à peu près, peut-être pas moitié moins, mais allez, je gagne peut-être les deux tiers de ce que je gagnais avant. Maintenant, pas les premiers mois. Forcément.
Forcément, les premiers mois, c'est d'être un petit peu...
C'est ça, c'est un peu différent. Et, mais ça dépend de quoi tu pars. Ça dépend
c'est
ça. Les trois quarts de ce que je gagnais avant, c'est pas mal, tu vois, ou les deux tiers, ou la moitié même, c'était
pas
mal.
Parce que tu partais de beaucoup.
Parce que je partais de beaucoup. Selon ta situation de base, ça peut être quelque chose d'assez confortable, hein, de devenir prof de yoga et de réaliser que tu peux gagner plus que le SMIC dès ton premier mois, si tu travailles beaucoup, que t'as beaucoup de contacts, etc. Mais à nouveau, ça dépend de qui tu connais. Parfois, ça dépend de ta
dans
chance.
Dans quel studio tu tombes, si tu te fais connaître.
Si tu te fais connaître, si tes cours fonctionnent bien, si...
si t'es bon, tout simplement.
Si t'es bon, probablement, si t'es prêt à travailler beaucoup. Moi, au début, c'était pas un rythme reposant. Au tout début, j'avais pas de cours. Les studios, ils te donnent pas de cours de 19h comme ça. Hein. C'est leur créneau phare où il y a que les profs connus. Les week-ends, les 19h, les pauses déjeuner, c'est des gros créneaux. Donc au début, tu vas avoir des créneaux de 7h30 du matin parce que, oh bah je te connais pas, je tente. Moi, je me levais à 6h tous les matins.
Testeur pour savoir si tu tiens et savoir si c'est vraiment ta vocation.
Oui. J'avais des cours à 16h qui étaient souvent annulés parce qu'à 16h il s'avérait qu'il y avait personne. Ça m'arrangeait parce que moi je voulais pas travailler tous les soirs. J'ai un enfant en bas âge, je préférais être chez moi le soir. Assez vite, c'est quelque chose que j'ai changé cette année. Je donne plus qu'un seul cours le matin, donc j'ai commencé à accepter de travailler le soir.
T'es célèbre maintenant.
Alors, un, on m'a demandé et deux, j'ai accepté. Effectivement, il y avait deux choses. Maintenant que je suis une super star du yoga, évidemment. Je donne des cours dans plusieurs studios différents. On peut choisir de donner 2-3 cours dans plein de studios. On peut choisir de travailler beaucoup dans un studio, c'est ce que j'ai fait moi. En cours public, je ne travaille qu'avec Olibi et Yuge, parce que pour des raisons différentes, j'adore ces deux endroits. J'adore les personnes qu'ils ont créées, c'est deux entreprises créées par des femmes françaises, et je trouve ça génial.
Pour rappel, Olibi, c'est une plateforme où on peut acheter des cours à l'unité ou en carnet qui sont quand même beaucoup moins chers qu'en studio, et qui sont organisés dans des lieux, genre des coworking ou des choses comme ça, des espaces de coworking à Paris, Lille, Nantes, je crois.
Nantes.
Lyon aussi.
Peut-être qu'ils viennent d'ouvrir à Bordeaux, en tout cas, c'est un projet. Peut-être. Je sais pas s'ils l'ont fait. Une des personnes, Marine, chez Olibi, a pour mission de chercher des endroits à louer. Dans le yoga vraiment accessible à tous, partout, etc. Donc c'est hyper bien. Yuge, c'est à l'autre côté du spectre. C'est un studio dont les cours sont un peu plus onéreux, effectivement. Donc on est plutôt autour de 30 euros le cours à l'unité. Après, il y a des formules, des forfaits, des moyens d'avoir des cours un peu moins chers, des tarifs moins de 25 ans, ce genre de choses. Mais on est dans un concept avec de la lumière infrarouge, des bougies, et du coup il fait chaud puisque la lumière infrarouge fait monter la température de la pièce à 25 à 30 degrés max, je pense. Donc des coups vraiment très cocooning, hyper chouette, j'adore travailler là-bas aussi. Je travaille dans ces deux endroits maintenant, et je répartis mon emploi du temps entre ça et les cours en entreprise majoritairement.
D'accord. Entreprise, c'est pas mal aussi pour ceux qui peuvent pas forcément se déplacer jusque dans les studios après le travail.
Les gens sont hyper contents d'avoir cours sur place. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait, tu vois toujours les mêmes élèves d'une semaine sur l'autre.
C'est ça, tu peux les suivre.
Exactement, tu les suis vraiment, ils se connaissent, ils te connaissent, tu les connais. Alors que quand tu vas même dans un cours public avec beaucoup d'élèves récurrents, il y a toujours des nouvelles personnes, etc. Donc, t'as moins ce suivi. Alors que là, il y a vraiment en entreprise un suivi que j'adore. Une ambiance plus décontractée, du coup, aussi. Ils traversent leur couloir d'entreprise en chaussettes. Ça met un peu d'ambiance relax dans l'entreprise quand il y a les cours de yoga au milieu de...
Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi toute une tendance yoga? Parce que bon, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de profs de yoga. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de cours de yoga. Et il y a cette tendance yoga. Enfin, genre, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un magazine qui en parle.
Bien sûr.
Et en plus, maintenant, c'est twisté à la sauce fitness. C'est twisté à la sauce fille super canon, super lady, super bien foutue. Comment tu le ressens, ça? Parce que le yoga, c'est quand même une pratique assez spirituelle, qui vient pas du tout d'ici.
Non.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
C'est pas quelque chose qui m'agace ou qui me touche particulièrement. Je pense qu'il y a clairement une mode du yoga et aussi, surtout, une espèce de récupération derrière. Et c'est ça qui fait qu'on en parle tout le temps, plus que les gens qui pratiquent. C'est la même chose que pour le véganisme, par exemple. Je crois que t'en avais un peu parlé dans ton, dans un télévisage avec Fanny, vous parliez d'Erta. Et tu vois, le véganisme, c'est quelque chose d'assez profond chez les gens qui sont véganes, et moi je suis végane. C'est super chouette qu'on en parle de plus en plus, parce que ça éveille les consciences. Mais derrière, il y a la grosse récupération. Il y a Erta qui crée sa gamme 100% végétale, il y a les débats un peu polémiques, le véganisme, est-ce que c'est meurtrier pour les enfants, ce genre de choses. Mais je pense que tu peux vivre un peu au-dessus de ça et t'en foutre, en vrai.
C'est plus une question de comment tu le prends.
C'est ça.
Parce que c'est vrai que le yoga, ça a pris une dimension très mode et très tendance. Il y a plusieurs types de façons de voir les choses. Il y en a certains qui sont hyper tradis et qui vont dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, le vrai yoga, c'est ça. » Et puis t'as ceux qui vont vraiment surfer sur la vague à fond. « Ouais, moi, je suis allée faire du yoga, machin. » Et qui vivent le yoga comme un sport, comme un dépassement de soi.
Ouais.
« Je sais faire cette posture, je sais faire ça sur la tête. » Et qui vont jamais prendre une photo moche de leur savasana, mais qui vont toujours mettre en avant le corps comme une prouesse. Et au final, c'est pas yoga. Ça, c'est, tu vois,
c'est pas l'objectif du yoga.
Non.
Après, ce que je me dis, c'est que ces mêmes personnes, si on garde notre analogie avec le véganisme, pourront venir au yoga comme ça, comme on peut venir au véganisme en achetant un truc 100% végétal Erta. À noter, aucun de leurs produits n'est vegan, il y a des œufs dans tout, donc c'est pas 100% végétal.
Précise, nota bene.
Nota bene, c'est de la vraie récup, ils savent pas ce que c'est le véganisme.
Ça, ouais,
de la même manière qu'un yoga hyper fitness, et moi je donne des cours de HIIT yoga,
donc
un mélange de fitness et de yoga. Ça me dérange pas qu'on y trouve autre chose, mais une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce cours de HIIT yoga, à l'origine, le HIIT yoga c'était dans mon salon, le matin toute seule, c'était pour débarrasser ma pratique de notions de prouesse, de vouloir se dépenser, de vouloir faire de l'exercice, etc. Donc je faisais un petit mélange des deux, et une fois que j'étais bien rincée, je faisais ma pratique. J'avais plus besoin de me dépasser dans ma pratique, j'avais pas besoin d'aller faire des belles postures, j'avais déjà fait mon sport, et comme j'adore faire du yoga, mon sport était infusé de yoga, d'où le concept de HIIT yoga, de yoga fitness. Ma pratique derrière, elle pouvait être plus calme, plus méditative, plus répondre à mon besoin du moment. Donc pour moi, que les gens viennent au yoga parce qu'ils ont trouvé un cours hyper trendy, ou parce qu'ils avaient envie de s'acheter un beau legging et du coup ils le rentabilisent en allant à un cours de yoga, ça me dérange pas. Peut-être qu'ils vont accrocher et creuser et approfondir leur pratique et découvrir autre chose. Et je suis presque autant agacée par ces personnes-là, pour peu qu'elles m'agacent, et c'est assez peu le cas. Peut-être que j'aurais pu être cette personne. Juste découvrir le yoga à un moment où c'était à la mode. Quand j'ai découvert, c'était pas la mode, donc
je
passais à travers les mailles, mais j'aurais pu être cette personne. Les personnes qui sont hyper puristes et qui jugent les autres yogis parce que « Ah, mais tu le fais avec des infrarouges, c'est mal. Mais tu le fais dans un yogin qui coûte de l'argent, c'est mal. Mais tu le fais dans tel studio, c'est pas bien. C'est pas comme ça, le yoga. »
C'est pas karma.
Ouais. En plus, je suis pas très tradie. Pourtant, j'ai fait des années d'ashtanga.
Pareil, moi, il y avait des choses qui m'agaçaient dans toute cette mode du yoga. Et mine de rien, petit à petit, tu souris, en fait. Je sais pas, tu vois les nouveaux qui sont là. « Ouais, j'ai découvert le yoga, c'est tellement bien, c'est tellement... Je me défoule trop. » Et là, tu fais le petit sourire, tu fais...
Ouais.
C'est le début, tu verras, tu vas creuser, tu vas comprendre, tu vas voir, tu vas aller sur ton tapis et tu te vas te rendre compte qu'il se passe des choses en fait. C'est dans les cours où j'y allais parce que je savais que ça me ferait du bien et souvent j'ai terminé en pleurs sur mon tapis, j'ai pas compris pourquoi. Et en fait c'est là que je me suis dit, punaise, il y a quelque chose. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de bien, c'est de voir des gens qui y vont au départ pour pas les mêmes raisons que ce qu'on pourrait penser.
Bien sûr.
Et qui finalement, de fil en aiguille, se rendent compte que ça les aide aussi sur le plan du développement personnel, de se rendre compte que bah, y a des choses sur lesquelles ils avaient des idées reçues qui partent complètement.
Peu importe la raison pour laquelle tu te mets au yoga, peu importe la forme de yoga que tu as choisie. Et dans mes cours en entreprise, il y a des personnes qui viennent tous les mercredis midi, ou tous les lundis midi, ou tous les mardis midi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça n'a pas changé leur vie. Ils ont plus mal au dos, ils sont hyper contents, ils sont un peu plus calmes, ils disent « Ah, je gueule moins sur mes enfants le soir !» Mais ils vont pas devenir prof de yoga, ils vont même pas chercher à aller prendre un autre cours ailleurs, ils ont juste leur cours hebdomadaire. Je suis hyper contente que ça leur fasse du bien, ouais. Ça me suffit, ça leur suffit, tout le monde est content. Certains ne m'ont même jamais demandé quelle forme de yoga on fait. Ils savent pas, ils s'en foutent, ils ont leur cours de yoga et c'est bien.
Ouais. Quelque chose qui me turlupine un petit peu, c'est quand je vois des personnes qui découvrent le yoga depuis peu et qui découvrent l'image Instagram du yoga, l'idée qu'on peut gagner sa vie, qu'on peut devenir prof de yoga et bouger partout, faire des photos trop belles et tout, qui ont derrière eux, allez, 1 an de yoga, de pratique, et qui partent à l'autre bout du monde faire leurs 200 heures et qui reviennent avec leur petit papier et qui disent « ça y est, je suis prof de yoga » et qui se mettent à faire des cours. Et il y a une part de moi qui ne peut s'empêcher de dire « mais même moi, en ayant fait depuis 8 ans, je ne me sentirais absolument pas légitime pour aller dire fais ça comme ça ou je vais aller faire une formation et en plus encore moins en 200 heures. Je trouve ça ridicule. Ok, c'est peut-être une révélation, mais allô quoi. Enfin, c'est comme si tu disais j'adore l'histoire, je vais apprendre à fond pendant 2 mois et je vais devenir prof. Enfin, est-ce que tu as eu le temps de t'accomplir dedans? Est-ce que tu as eu le temps de sentir les bienfaits psychologiques en 1 an? Enfin, même moi, en 8 ans, c'est pas ça.
Même purement physique, en fait. Parce que je pense aussi qu'il y a une chose, quand tu donnes des cours de yoga, tu vas accompagner les personnes dans leur développement spirituel, mental, etc. Mais en réalité, un cours de yoga public d'une heure, tu vas distiller des petits messages de bienveillance, peut-être les yamas, les niyamas, donc les codes moraux du yoga, etc., au sein de ta séance. Tu vas surtout accompagner les gens à bouger leur corps, à prendre conscience de leur corps, de leurs sensations, etc. Plus tu as pratiqué toi, mieux tu peux avoir conscience, ne serait-ce que des évolutions de ce corps. Quand tu as pratiqué de tes 18 ans à 28 ans, 25 ans à 35 ans, 40 ans à 50 ans, tu as ajusté ta pratique au fil des années, au fil des besoins, une grossesse, une maladie, une jambe cassée, une baisse d'énergie, un deuil,
tu sais qu'est-ce qui fait du bien, quand, comment, tu sais qu'est-ce qui est apaisant quand t'es stressé.
Tu sais aussi que tu ne sais pas grand-chose.
Tu sais aussi que tu ne sais pas.
Tu sais que ça change tout le temps.
Et que tu peux être surpris.
La réponse à ta question, elle n'est pas si simple que ça. Toi, tu parlais de légitimité, alors ça, je pense que vraiment chacun gère sa propre légitimité.
Est-ce que le risque n'est pas d'avoir des profs pas très bons?
Évidemment, c'est un risque.
Quelqu'un qui a fait 1 an de yoga et qui a fait sa formation de 200 heures, il n'a pas le recul sur les bénéfices à long terme et sur les postures que quelqu'un qui en a fait, 5, 6, 10 ans et qui a fait énormément d'abord de préparation, de lecture, d'enseigner et de pratiquer. C'est certain, moi j'ai fait déjà des cours avec des profs débutants et j'ai été frustrée, quoi. J'étais là, mais il sait... Enfin, non, il y avait des choses où
après,
il y avait...
Après, t'as prof débutant et prof débutant à nouveau. Voilà. Dans mon entourage, tu vois, moi j'ai fait plein de cours avec des profs débutants, j'ai été prof débutante, j'ai pris les cours de mes amis qui étaient profs débutantes, etc. Et clairement, tu sens la différence entre les cours de personnes qui ont pratiqué beaucoup avant et de personnes qui sont encore en train elles-mêmes de découvrir leur pratique. Et la plupart des profs que je connais ou que je ne connais pas, même ceux que je vois au loin sur la scène parisienne, sont des profs qui ont pratiqué beaucoup avant d'être prof, ou qui sont profs depuis longtemps. Il y en a aussi qui ont eu un coup de cœur. Maintenant, ils sont profs depuis 7-8 ans, donc on se pose plus cette question, mais ils ont fait du yoga 6 mois avant d'avoir un coup de cœur. Alors souvent, c'était des danseuses, donc ils avaient déjà une grosse connaissance du corps, et même si c'était pas à travers le yoga, il y a quand même cette question de connaissance du corps, je pense. Mais ça me fait penser à une de mes amies qui est prof de yoga depuis juin, et pendant qu'elle s'entraînait à donner des cours, une copine de copine de copine est venue à ses cours régulièrement, et c'était ses premiers cours de yoga, ses tout premiers cours de yoga, c'était un peu moins d'un an. Gros coup de cœur, elle a pris ses cours 1 à 2 fois par semaine, tous ses cours où elle s'entraînait. Elle est partie en Inde se former, elle est prof de yoga maintenant. C'est cette fille qui a découvert le yoga en avril, mai, l'année dernière. Je la connais pas, je connais pas ses cours, et ça se trouve, ils sont super, tu vois. Je pense qu'il y a des fois où ça marche très bien. Et on rejoint peut-être une question dont on pourrait parler, qui est le business du yoga. Et ce business du yoga, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'agace particulièrement, en fait. Je suis dans le business du yoga, j'ai besoin que les gens payent des cours de yoga pour payer mon loyer. Ce business du yoga, pour moi, la plupart des personnes qui vivent du yoga sont pas des personnes qui roulent sur l'or, qui cherchent à gagner de l'argent à tout prix. Même les fondateurs de studios, on a l'impression que les studios, vu le prix d'un cours à l'unité, vu le bel endroit, on a l'impression que les gens roulent sur l'or. Mais avant de rentabiliser un grand espace parisien, sachant que tu payes tes profs, que tu payes ton loyer, c'est pas des gens, même les
vêtements. C'est un peu la guerre, tu penses, entre les studios?
Je suis pas certaine. Moi, les personnes que je connais sont hyper bienveillantes. Après, à nouveau, c'est souvent des studios existants. Tu ouvres un studio à 2 pas d'un studio qui a pignon sur rue, potentiellement, son propriétaire va pas être content. Ça va pas être ton meilleur ami. Donc, je pense que... Mais ça, c'est partout pareil. Même si, dans ma rue, là, il y a un caviste que j'adore, j'y vais depuis que j'habite ici, régulièrement, j'ai acheté ma petite bouteille de vin.
Toi, tu bois du vin, tu fais du yoga, mais... Carole,
non, je suis hérétique.
Oh, tu démystifies quelque chose, là.
Et Et donc, à côté de ce caviste, il y a un nouveau caviste qui vient de s'installer il y a 2-3 mois. Je doute que le premier caviste soit copain avec lui. Bah, je pense que dans le monde du yoga, clairement, c'est pareil. Tu vas ouvrir un studio au pied d'un studio existant, tu te fais pas un ami. Hein.
Au début, quand tu étais prof, il y avait peut-être encore beaucoup d'idées reçues sur le yoga, genre, ah ouais, c'est très des gens zen, obo, bobo, machin. Et alors, peut-être que maintenant, ça se démocratise et que ça devient quelque chose de plus courant.
Oui et non. Potentiellement oui, plus courant, mais tu gardes certaines étiquettes. L'étiquette Instagram, l'étiquette bobo qui mange des tartines à l'avocat, l'étiquette...
Mange des graines,
l'étiquette est forcément vegan, tu bois pas d'alcool.
Mais il y a une part aussi de... Pas de vrai, mais dans le sens où quand le yoga se met à avoir de l'importance dans ta vie, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont remises en question dans la manière que t'as d'aborder l'argent, la consommation.
Bah, quand tu regardes les codes moraux du yoga, il y a le fait de ne pas désirer, de ne pas vouloir surconsommer notamment, de ne pas vouloir tout posséder, etc. Il y a le fait de ne pas voler, et ça a un côté vraiment assez écologique aussi, on peut le voir de plein de manières, hein, tous ces principes. Ne pas voler aux autres, en fait, en gaspillant, le gaspillage est une forme de vol, la non-violence.
J'avais une question aussi, les hommes, on n'en voit pas beaucoup dans les cours.
On n'en voit pas tant que ça, alors que c'est vrai que quand à l'origine, en Inde, les chalets étaient interdits aux femmes. C'était une pratique d'hommes, pour les hommes, les femmes ont commencé à être admises, mais pas quand elles avaient la règle, parce qu'elles étaient impures. Et en tout cas, et quand c'est arrivé en Occident, c'est arrivé sous une forme assez différente, que moi je ressens pas forcément, j'ai pas l'impression de vivre dans un milieu de business de yoga, j'ai pas j'ai l'impression de vivre dans un truc hyper à la mode, j'ai l'impression d'avoir des gens normaux en cours. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes parce qu'il y a cette image. Et après, il y en a quand même de plus en plus souvent. Là, cette semaine, je pense que j'ai eu un seul cours sans homme.
Il y a peu de profs de yoga hommes aussi, bizarrement, en tout cas en Occident.
C'est pas une majorité, et pourtant, par rapport à la proportion d'élèves, c'est un peu comme à la fac de droit. Plein de femmes, pas beaucoup d'hommes, mais plus tu montes dans la hiérarchie, plus il y a d'hommes.
J'aime beaucoup l'image.
T'arrives en fac de droit, il y a 200 nénés,
c'est ça,
4 mecs. Et dans les top 40 des avocats, dans les partenaires, il y a que des mecs. Et dans le milieu du yoga, bah, c'est pareil que partout. C'est-à-dire que sur un même cours, quand je suis pas là et que je me fais remplacer, si je me fais remplacer par une femme, généralement les gens viennent pour ton cours et donc il y a moins de monde. Me faire remplacer par un homme, ça chute pas tant que ça. Parfois il y a même plus de monde que quand c'était moi.
Ils se disent, oh, un petit mec là.
Tu sais pas ce que les gens se disent. Tu vois, je pense même pas que ce soit conscient. C'est un homme, il est plus légitime, il doit mieux savoir. On pense que les hommes sont meilleurs. Peut-être qu'on se dit aussi que le cours va être plus dur, plus physique, parce que c'était la même chose en gym suédoise. Ce que je te décris, c'était vraiment exactement pareil. Très peu d'hommes profs de gym suédoise. Leur cours était sur les attentes, etc.
Tu sais que je pratique un modo yoga. Pour le coup, il n'y a presque que des profs hommes. Il y a aussi des femmes, hein. Mais il y a moins de femmes que d'hommes. Et c'est le seul endroit où à chaque fois que je vais, il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent. Mais genre beaucoup, et des habitués.
Après, pour les hommes, je pense aussi que c'est plus encourageant que le prof soit un homme. Tu vois, ça se comprend dans ce sens-là.
C'est assez particulier de voir qu'il y a autant d'hommes à chaque fois. Je me dis, punaise, mais il y a presque la moitié là. Waouh.
Ah oui.
C'est vraiment impressionnant.
En Ashtanga, t'as un peu plus ça aussi.
Je pense aussi.
Ouais. Pour moi, c'est beaucoup de représentation mentale, consciente ou inconsciente, qu'ont les gens.
Et après, au niveau des effets positifs sur le corps ou sur le mental.
Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris à lâcher prise. Les gens qui me connaissaient avant que je fasse yoga s'en rendent peut-être mieux compte, sont souvent surprises de savoir que j'étais très insomniaque, hyper impatiente. Et pour moi, ça a été une pratique qui, graduellement, c'est pas une baguette magique, mais graduellement, je dors bien. Je suis beaucoup moins anxieuse, j'ai beaucoup plus de recul, je lâche beaucoup plus prise. Ça m'a vraiment accompagnée dans la maternité. J'ai fait du yoga le jour de mon accouchement, j'ai dû perdre les os quelques heures après un cours de yoga. Un petit peu trop dynamique pour une femme enceinte de 9 mois.
Zéro douleur.
Mais genre, j'en avais marre, j'ai envie d'accoucher. Je me suis dit, bon, allez, un bon petit cours là.
Allez, vas-y, sors.
C'est ça.
Voilà. Et puis finalement, hein, accouchement au top, grâce au yoga.
Écoute, figure-toi que sans entrer dans les détails de l'accouchement, oui, j'ai échappé à la césarienne, puis au forceps, puis à l'épisiotomie, et les sages-femmes m'ont dit, ah bah heureusement vous faites du yoga, parce que sinon c'était césarienne.
Vous avez un périnée de fou.
Le périnée, le souffle, c'était hyper bien.
Nota bene, si tu n'as pas encore d'enfant, pense-y, le jour où tu veux accoucher plutôt sans douleur.
Mais il y a la gestion du souffle, il y a...
Disons que ça mal, mais tu lâches prise.
C'est ça.
Ça coule sur toi.
Non, mais t'as aussi une vraie conscience de ton corps. Je trouve qu'en termes de conscience de son corps, de ce qui nous fait du bien ou ne nous fait pas du bien. Au fil des pratiques, ça s'affine vraiment. J'ai oublié presque mes sensations de grande débutante. Mais parfois, quand je vais voir quelqu'un dans un cours, surtout en cours de yin yoga, donc c'est une pratique très statique, très immobile, je cherche pas du tout d'engagement musculaire. Il y a vraiment zéro compète. Ça a vraiment, moi, changé ma pratique, changé ma vie, de découvrir le yin yoga, de devenir prof de yin yoga et maintenant formatrice de yin yoga.
C'est des postures qui sont maintenues très longtemps dans une dynamique très passive.
Dans une dynamique passive, à la différence d'un yoga restauratif, il y a quand même une sensation. En restauratif, tu vas mettre plein de coussins, plein de machins pour être juste bien. En yin, t'es pas toujours au top de ton confort. Tu as une sensation qui est plus ou moins présente, et en fait, on cherche à appliquer vraiment un stress sur des tissus. Mais en tout cas, tu vois, je parlais de conscience de son corps. Quand je vais, moi, voir un débutant dans une de ses postures, je lui dis, est-ce que tu sens la posture à tel endroit? Telle posture vise à avoir une sensation sur l'extérieur de la hanche droite, peu importe. Et les gens, parfois, te regardent, te jettent un regard vide.
Ils sentent pas.
Tu sais, ils sentent pas, ils savent pas ce qu'ils sentent, ils savent pas où est leur hanche, ouais. Ils sont perdus dans leur corps. Et tu sens que de séance en séance, cette perception de soi-même s'affine. Et c'est ça qui a aidé pour l'accouchement, par exemple, c'est ça qui t'aide au quotidien, c'est ça qui te fait faire la différence dans ton quotidien quand tu as un petit rhume ou une grosse crève, et là en fait je vais quand même aller chez le médecin, ou là en fait je suis un peu en burn-out.
C'est une conscience plus fine en fait de ton corps, de tes besoins, de tes envies,
ouais.
Par-delà tous les aspects positifs qu'on peut avoir sur la souplesse.
Après les autres sont plus évidents. Tu gagnes en mobilité, et la mobilité c'est pas nécessairement la souplesse, la mobilité c'est plus la capacité de bouger ton corps dans ce qu'il pouvait déjà faire d'origine. C'est retrouver la capacité de mouvement que tu as toi dans ton squelette à la base, et que tu n'utilises pas en fait. C'est ça qui fait qu'on fera toujours nos lacets à 70 ans.
J'ai un message personnel à transmettre à mon père. Écoute. Et ça fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que je l'entends dire un jour je me mettrai au yoga parce que ça me ferait du bien. Et ça fait depuis plusieurs années que je l'entends dire un jour je me mettrai au yoga. C'est vraiment pour me faire... Voilà. Et je l'ai amené à Modo Yoga quand il est venu à Paris. Quand il est sorti, il m'a dit « Je comprends pourquoi t'aimes. » Vraiment, je comprends.
Ah ouais. J'irai pas tout le temps quand même.
Quand même, hein. Mais je sais qu'il faudrait, mais je sais que... Alors, je le laisse parler. Je sais qu'un jour, il va me dire « Non, mais là, il faut vraiment que je le fasse. » Et il va trouver un cours d'association de attaque. Il dira « C'est pour mes muscles. J'y vais pour le principe. »
Mais pour le corps, il y a des bénéfices qui sont évidents.
Et pour la tête aussi. Voilà.
Et après, derrière, effectivement, il y a... tout ce que tu travailles derrière, et ça peut être juste bienfait immédiat, calmer le système nerveux,
mieux dormir,
faire du tri dans tes pensées, etc. Ça peut aussi être juste le fait que ça va te faire choisir d'aller vers un mode de vie un peu plus en adéquation avec les valeurs du yoga, la non-violence, plus écologique, la bienveillance, prendre soin de soi, prendre soin des autres.
Je trouve que ça a des effets aussi sur ça en fait, c'est-à-dire que maintenant, moi il y a 8 ans et moi il y a maintenant, je suis convaincue que le yoga a sa part de responsabilité, où tu réagis plus, où t'es plus tolérante, t'es moins impatiente, t'es moins anxieuse sur des petits détails de la vie. Alors je dis pas que tout est parfait, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a des choses que tu vis de manière différente, et des choses que tu t'achètes pas mais tu regrettes pas parce que t'es plus dans l'envie. C'est même pas que tu t'abstiens ou que t'es dans une forme d'ascétisme, il y a des choses plus essentielles qui prennent le pas.
Parce que je pense que tu as atteint une forme de sérénité, de contentement, et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué quand j'ai quitté mon emploi pour être prof de yoga à temps plein. Je savais que j'aurais un effort financier à faire, et je remarque que quand je me pousse trop, quand je travaille trop, j'ai besoin de me récompenser. J'ai fait beaucoup d'efforts, je me récompense, que ce soit par la bouffe ou par des achats. J'achète des petites choses, je me fais plaisir. Alors je tricote, ça peut être des choses pas absurdes, ça peut être une nouvelle pelote pour un nouveau projet, tu vois, peu importe. Je compense le fait d'avoir trop donné en me faisant plaisir, par la consommation notamment. Quand je suis devenue prof de yoga, je savais qu'il allait falloir que j'arrête de dépenser moins de restos, moins de petits plaisirs justement, d'achats.
Moins de choses inutiles, on va dire, parce que
moins de consommation,
des priorités.
Exactement. Et franchement, pendant un an et demi, ça m'a pas du tout manqué. J'ai pas le temps d'aller au resto, de toute façon je travaille tous les midis, tous les soirs.
Pas le temps d'aller dépenser des
choses. Je vais assez peu au restaurant, mais parce que juste avant, j'avais passé une matinée de boulot atroce et tout, j'avais envie de me faire un petit déj cool au resto avec mes collègues, tu vois. Ce mois-ci, j'ai beaucoup travaillé, j'ai donné une formation de 50 heures, en plus de mes cours, en plus de mon enfant, bah je me suis acheté pas mal de trucs. Parce que je me suis poussée.
À une époque, en ayant les moyens que j'ai actuellement, je me serais peut-être sentie coincée ou frustrée,
ouais.
Peut-être un petit peu. Et maintenant, j'en tire presque un contentement de savoir que j'ai pas forcément le choix, que bah non, du coup, j'ai pas les moyens. Donc en fait, de toute façon, il y a même pas la question à se poser.
C'est pas une option.
Et en fait, j'en tire presque un contentement de me dire bah non, j'ai une veste qui me tient chaud pour l'hiver. Basta.
C'est aussi s'éloigner de la société de consommation. C'est ça. C'est ça qui est rigolo, c'est que on parlait du yoga hyper à la mode, du yoga qui entraîne à consommer avec plein de vêtements,
Alors, plein de trucs.
Et en réalité, plus on en fait, plus on a dans ce mode de vie, et plus on s'éloigne de ce besoin de consommer, parce qu'en fait, on a juste besoin d'être bien dans nos vies, dans notre corps.
Il n'y a pas tant de business malsain de yoga.
Je pense qu'il y en a, mais c'est souvent plus de la récupération. C'est des marques qui existaient depuis très longtemps, qui se sont lancées sur le créneau yoga parce que c'est à la mode. Mais c'est pas les jeunes marques de yoga françaises qui sont des requins.
Après, c'est vrai que le côté un peu négatif, c'est que la vitrine Instagram montre toujours les mêmes types de personnes, les mêmes types de corps, des femmes minces, blanches. Et ça peut encore porter préjudice à des personnes qui n'oseraient pas ouais. venir dans des cours ou qui se diraient bah non je suis pas assez souple, je suis pas assez mince.
Ça a l'air bien mais c'est pas pour moi.
Et ça c'est un peu dommage parce que derrière des écrans il peut y avoir plein de personnes, des gens de 50 ans, des femmes qui ont eu 3 accouchements qui se sont pas bien passés, qui sont pas dans la possibilité de bouger tel muscle ou tel corps, alors qu'en fait si, on peut toujours faire un cours de yoga. Bien sûr. Ça je pense que c'est le message qu'on pourrait transmettre maintenant.
Ouais.
C'est si vous avez besoin de vous faire du bien, venez, mais même si vous avez une jambe à la traîne, peu importe.
Il faut choisir son cours. C'est aller ça. À un cours qui semble approprié, ne pas hésiter à appeler le studio avant ou ce genre de choses. C'est l'algorithme Instagram, les gros comptes, et c'est aussi une demande du public. Les comptes de belles femmes blondes, jeunes, musclées, sans enfants de préférence, ont 1 million d'abonnés.
Par hasard, un corps super bien foutu, inatteignable, et des photos super bien belles,
et ben derrière ton écran... Mais parce que c'est leur boulot, souvent elles sont photographes, elles adorent ça, ou elles ont un mari ou une amie photographe, c'est des photos pros hein, qu'elles mettent, c'est pas le petit compte machin.
C'est pas le Einstein du matin, les cheveux ébouriffés quand tu sors de ta douche.
Non.
Parce que ça, c'est la réalité.
Mais après, tu vois, dans mon entourage, il y a quand même plein de profs de yoga qui ont un compte Instagram, comme le mien, pas très gros, avec entre 500 et 3000 followers, qui véhiculent plutôt cette image-là du yoga, la nôtre. Oui. Le yoga en pyjama dans ton salon avec la luminosité pourrie et ton gamin qui te saute sur le dos avec ta posture.
De se dire qu'il y a encore des comptes comme ça qui montrent la vérité parce que il faut pas oublier cette vitrine, c'est une vitrine. La vitrine que tu vois, c'est une vitrine.
C'est un magazine. Les comptes à 1 million de.
Imagine
de
que t'es devant ton L et que tu te dis c'est impossible d'avoir un corps comme ça, c'est photoshopé. Mais c'est pareil, Instagram et les headstands parfaits, ça a demandé peut-être 50 prises derrière, beaucoup d'heures d'entraînement. On connaît pas la vie des gens derrière et ça veut pas forcément dire que parce qu'elle fait son headstand et qu'elle est bien foutue, qu'elle est heureuse.
Mais après, si tu cherches bien sur Instagram, tu vas trouver tous ces petits comptes
de
profs de yoga ou de pratiquants.
C'est sur ça que
femmes, hommes, blancs, noirs, toutes races. Toute ethnie,
hétéro,
tout âge, toute orientation sexuelle. Et il y a tous ces gens qui font du yoga et qui promeuvent plein de valeurs et c'est les comptes qui sont les plus intéressants à suivre.
C'est ça.
Après, moi, je suis 2-3 gros comptes. Pas plus que ça et c'est pas des sources d'inspiration pour le yoga. Et d'autant plus que je ne crois pas au Practice and Holistic Coming, je ne pense pas que tout le monde peut faire le grand écart. D'un point de vue purement squelettique, tous les corps ne peuvent pas faire ça. D'un point de vue, si tu commences à 50 ans avec tel squelette, peut-être que tu feras jamais le grand écart. Et ça veut pas dire que tu peux pas avoir une pratique ressourçante qui te convient, qui te fait du bien, qui va te faire dormir la nuit, etc. Et pour moi, le but, il est là. Si tu fais un handstand et qui te remplit de joie parce qu'il te donne confiance en toi et que c'est assez rigolo, moi j'adore les inversions. Plus que les grands écarts. C'est pas le but du yoga. Il y a des fois où je fais pas d'inversion pendant un mois parce que j'ai un peu l'épaule fragile ou parce qu'en ce moment j'ai une sinusite et... C'est pas grave.
Merci beaucoup, Carole.
Merci à
toi. Ça m'a fait trop plaisir.
À moi aussi.
J'espère que ça aura intéressé tout le monde. Je crois qu'on a abordé plein de points. Et puis, si vous faites du yoga, si vous avez des questions à poser à Carole, c'est sur son compte qui est Carole Yin Yang.
Pour le yin et le yang.
Vous pouvez retrouver aussi Faustine et Mélanie sur Instagram et leur compte aussi Happy Yogi Society. Elles organisent des workshops, des retraites. La prochaine, il reste peut-être encore des places.
Ouais, il reste quelques places. C'est du 24 au 27 mai.
Et voilà, moi je sais que c'était génial parce qu'elles ont toutes les trois une pratique différente et on découvre à chaque fois des choses différentes et c'est une cohésion super. Je vous souhaite une très belle journée. Encore merci pour vos retours. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.